me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur cet épisode 2,2 du Lloydcast. Je m'appelle Lilian Lloyd, je suis auteur, metteur en scène, comédien, entre autres, et dans ce podcast, je te propose à la fois de partir à la découverte de personnes que je trouve remarquables et de partager avec toi des réflexions sur l'actualité, des expériences personnelles ou professionnelles, en espérant que tu y trouves des résonances. Alors, si c'est pas déjà fait, je te conseille vivement d'aller écouter l'épisode 0 qui te présente dans le détail ce qu'est un Lloydcast et qui je suis. Nous sommes dimanche 18 mars, il est 17h23 au moment où je commence à enregistrer et il neige sur mon Vélux. Aujourd'hui, je voulais te parler de théâtre, simplement parce que c'est ma passion et il se trouve que c'est mon métier depuis plus de 20 ans maintenant. Dans ces résonances, je me disais que j'allais non pas te parler de moi de manière directe, de toute façon ce ne serait pas très très intéressant de connaître mon pédigré ou que je te donne tout mon CV comme ça, mais je voulais plutôt te faire part de mes réflexions. Encore une fois, c'est totalement subjectif. Simplement pour te situer, j'ai fait des études de cinéma, début des années 90. Enfin, je voulais faire des études de cinéma. Mais comme j'avais pas les moyens de faire une école de cinéma, les grandes écoles de cinéma qu'il y avait à l'époque et qui existent encore, je me suis retrouvé à Nanterre. Et à Nanterre, Paris 10, au début des années 90, le département de Cinoche, c'était soit un mec qui te décortiquait les séries du style Starsky et qui te disait que Starsky Hutch était forcément homosexuel, que Emma Peel était clitoridienne parce qu'elle devait appuyer sur un bouton au-dessus de sa porte pour ouvrir cette même porte. Ou alors, on avait aussi un autre professeur, que je crois qu'il était néo-zélandais, qui décortiquait, lui, les films, et qui trouvait que les vers des sables dans Dune, le film Dune, je ne sais pas si tu l'as vu, ces grands vers des sables étaient des espèces de vagins et avec des dents. Voilà. Bon, c'était juste pour te donner le niveau. Bref, la seule chose intéressante, c'était les cours de théâtre. Alors, je parle des cours de théâtre qui étaient plutôt du genre pratique, hein, qui étaient le corps, la voix, le clown, la comédia dell'arte, le mime, etc. Non, parce que pour les cours théoriques, c'est pareil. Je te jure, c'était des vieux universitaires qui distillaient leur savoir, mais sans passion. Alors, moi, j'avais envie qu'on m'éduque, et j'avais pas envie qu'on m'instruise. Bref, on faisait des rencontres avec des metteurs en scène et on allait voir des spectacles. Alors, je me souviens de deux spectacles particuliers. Il y en avait un qui... alors, j'ai plus le titre en tête, mais je sais que c'était à la MC Bobigny 93. Alors, pour te situer, si tu connais pas, c'est en banlieue parisienne, c'est du théâtre subventionné, assez intellectuel, on va dire. Et là, t'avais un comédien qui était sûrement très bon et qui marchait sur une structure métallique un petit peu étrange. En récitant des poèmes de Hölderlin. Alors Hölderlin, je crois que c'est un poète allemand qui a passé les 10 dernières de sa vie enfermé, les 10 dernières années, pardon, de sa vie enfermé dans une tour. À la fin, j'ai vu tout le monde se lever, applaudir à tout rompre et dire j'ai rien compris, c'était génial. Et l'autre spectacle que j'ai vu, je crois que ça s'appelait Les Charmilles. Et là, on avait sur scène un clown qui mettait du sang un peu partout sur le plateau, qui mettait de la sueur. Ensuite, il y avait un couple de comédiens nus qui se roulaient là-dedans et qu'on pendait par les pieds. En gros, tout ça pour, t'auras compris, dénoncer les abattages animaux, etc. Voilà, ça, c'était le théâtre qu'on me proposait d'aller voir quand j'étais en études théâtrales. C'est sûr que, fondamentalement, c'était assez loin de moi. Mais j'ai toujours eu une espèce de grande passion pour les gens qui sont des créateurs. D'où l'idée aussi, à l'intérieur des Remarquables, quand je te fais découvrir un auteur, que ce soit un metteur en scène, une personne qui chante, ou un humoriste, ou quelqu'un qui crée, j'ai une vraie passion pour ça. Et on avait donc des rencontres avec des gens de théâtre. Parmi ces gens de théâtre, je me souviens d'un qui, à l'époque, était très en vue, qui s'appelait Stanislas Nordet. Je crois que c'est l'un des fils de Jean-Pierre Mocky. À l'époque, il était vraiment très, très en vue. Et donc, il avait fait une pièce de théâtre que je n'avais pas très, très, très bien compris. Je lui avais posé la question, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et il m'avait répondu en me clashant un peu devant tout le monde. Mais ça, quand on n'a pas les références, on ne peut pas comprendre. Et c'est vrai que je n'avais pas ces références. Voilà, donc je n'ai pas compris. Et puis, c'est quelque chose de très fort pour moi. Il nous a dit « le théâtre, c'est ». Alors, je me souviens plus quelle était sa définition du théâtre, mais il nous a dit « le théâtre, c'est tel truc ». Et simplement que ce type ait dit « le théâtre, c'est », ça a provoqué, alors tu peux trouver ça très étrange, mais moi, ça a provoqué un traumatisme qui me tient jusqu'ici. Comment peut-on dire ce qu'est le théâtre ? Je veux dire, c'est tellement personnel, et si on te dit ce que c'est telle ou telle chose, c'est qu'on a une certitude. Je repense à cette phrase que tout le monde connaît, j'imagine, cette phrase de Laurent Terzieff, quand il était venu chercher, je crois, pour la dernière fois, un Molière sur scène. Il avait dit « Le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, mais c'est ceci et cela ». Je trouve que c'était la plus belle définition que j'avais. Si ce n'est pas la plus belle, en tout cas, me semble-t-il, de manière purement personnelle, la plus juste. Depuis plus de 20 ans que j'écris, que je joue, que je mets en scène, j'ai toujours cherché à répondre à cette question. Le théâtre, c'est quoi ? Et je te le dis très honnêtement, je suis vraiment incapable de te répondre. Pour moi, c'est en vain, cette quête. Alors peut-être que pour moi, le moteur, c'est la question. Tu vois, c'est pas la réponse. Et c'est ça que j'ai envie de développer avec toi. Je me sens, tu vois, comme une espèce de moine bouddhiste qui va dédier toute sa vie à une question. Et il va se poser cette question, il va se dire, et je vais passer toute mon existence à trouver la réponse la plus vraie, la plus juste, la plus peut-être objective possible à cette question. Et puis arrivé à la fin de sa vie, il va d'un coup trouver la réponse à cette question et il va être là en train de se dire, mais attends, mais pourquoi je me suis posé cette question ? Et boum, c'est reparti. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que la question est le moteur. Après, c'est quoi une certitude ? Je vois la définition d'une certitude. Mais est-ce qu'une certitude, ce serait pas le truc le plus éphémère qui existe ? Par exemple, pour mon boulot, je peux te dire que si j'ai des certitudes, et j'ai toujours forcément une certitude à un moment, parce que je me dis que le texte est suffisamment bon pour le présenter à des comédiens, à des metteurs en scène, si c'est pas moi qui mets en scène, et à des producteurs qui mettront ensuite de l'argent dessus, cette certitude sert à ce projet. Et ça va pas aller plus loin. Tout simplement pour dire, les recettes d'auteur que j'avais, par exemple, je sais pas, moi, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quand j'ai commencé, ou quand je relis aujourd'hui ma toute première pièce qui s'appelle Histoire d'âme, ces certitudes que j'avais à l'époque, elles n'ont plus date aujourd'hui. Et celles que j'ai là, maintenant, tout de suite, dans 10 ans, l'auteur que je serai rigolera de des certitudes que j'ai aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on peut avancer dans le doute en permanence. En fait, dans le doute, c'est même assez compliqué d'avancer. Personnellement, je trouve que c'est de la vase. Et je doute pas. Je ne doute pas de la qualité de mon travail. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, mais j'en ai pas une certitude immuable. Et c'est pour ça que j'ai touché à beaucoup de genres d'écriture, à bien des projets, loin de moi pour justement sortir de ma zone de confort et péter la dernière certitude que j'avais afin de m'en créer une nouvelle plus costaud et qui va me permettre d'avancer jusqu'à ce que je me la pète celle-ci aussi de nouveau, et etc., etc. En gros, si tu veux, pour moi, une certitude, c'est juste un marchepied. Tu vois, je vais encore faire une analogie avec la musculation, mais par exemple, si tu vas prendre un poids de 10 kilos, tu vas faire 10 répétitions pendant 3 mois, 6 mois. Et au bout d'un moment, ton corps, les fibres de ton biceps, elles diront « Ok, il n'y a pas de problème, elles sont sûres, elles peuvent soulever ce poids de 10 kilos en permanence, il n'y a vraiment aucun souci. » Mais si tu as envie d'avoir plus de muscles, si tu as envie d'aller plus loin, d'être plus fort, tu vas passer à 11 kilos, à 12 kilos. Là, tu vas galérer pendant quelques temps et puis au bout d'un moment, ton corps aura reconstruit de nouvelles fibres qui rendront ton muscle plus volumineux et qui te permettront de pousser, de tirer 12, 14, 15, 16 kilos, enfin, même si à un moment, tu as forcément une limite. Là où je veux en venir, c'est pour te dire que je crois sincèrement que si on imagine la certitude comme quelque chose d'immuable, on est mort. Et même quand je te dis ça, je sais que c'est une espèce de certitude que je te donne. Mais je sais qu'elle peut encore un tout petit peu bouger. En fait, moi, j'aime le mouvement. J'aime l'élasticité et la chose la plus élastique en toi, en moi. Alors, c'est pas notre proportion à faire un grand écart facial. Non, parce que moi, très honnêtement, ça s'arrête assez vite. Non, la chose la plus élastique en soi, c'est le cerveau. Voilà. Et le cerveau, c'est gras et c'est élastique et ça aime le mouvement. Enfin, en tout cas, le mien, oui. Voilà, en gros, de mon côté, j'essaie de me dire que mes certitudes sont des fibres musculaires que je dois passer mon temps à challenger pour les rendre plus fortes et ne jamais les figer. Alors, j'ai envie de donner un petit conseil de vieux théâtreux à un jeune qui commencerait. Si jamais tu entends dans un de tes cours quelqu'un te dire, ou je ne sais quel metteur en scène ou quel auteur, le théâtre sait, bouge-toi les oreilles, parce que c'est comme si on te donnait la fin d'une série que tu adores. Est-ce que tu as envie, toi, de savoir qui meurt à la fin de Game of Thrones? Bon, ça, c'est un mauvais exemple parce qu'ils meurent tous, mais bon, t'auras compris. Bref, c'est comme tout. J'aime me poser des questions et c'est pas vraiment la réponse qui m'intéresse, c'est simplement le cheminement de pensée. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui et de voir comment ça allait résonner en toi. Donc, tu peux me faire des commentaires là où tu auras entendu cet épisode. Et c'est vraiment un endroit d'échange ici, je te le rappelle, j'aime ça. C'était pas vraiment un moment philosophique avec Alain. Alors, quand je parle d'Alain, je parle pas de mon père. Hein. Je parle du philosophe justement qui est très connu parce que il a parlé du doute, comme quoi il fallait douter de tout et peut-être même au final douter de son propre doute à lui. Bref, dis-moi de ton côté, quelles sont tes certitudes, si tu en as, et est-ce que tu les fais avancer? Est-ce qu'elles te permettent d'avancer aussi? Si elles bougent en toi, si oui, comment? Vraiment, ça m'intéresse. Je voulais simplement faire une toute petite parenthèse et pour te remercier, toi, 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 enfin tous les toi que vous êtes, en l'espace de 2 semaines et demie, on en est déjà presque à 500 écoutes des 2 premiers remarquables plus des 2 premières résonances. Ça me touche véritablement, les retours que tu me fais de manière personnelle ou sur la page Facebook. Merci énormément. J'essaye de prendre en compte tout ce que tu me dis, d'améliorer aussi certaines choses. Comme par exemple la technique. Là, je crois que techniquement c'est un peu mieux. Je pense que tu m'entends mieux. Je pense qu'il y a moins de souffle, etc. En tout cas, j'essaye d'améliorer tout cela. Je te donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouveau remarquable. Et crois-moi, celui-ci, il envoie du pâté. D'ici là, prends soin de toi. Salut la compagnie.